Je suis très, très, très content d'être de nouveau avec vous. Amen. Ça fait un temps, vous qui ne me connaissez pas, je suis David Proctor. Je suis originaire des États-Unis. Nous étions missionnaires pendant 36 ans au Luxembourg et puis en France. On a commencé des églises et j'ai prêché un peu, je crois que j'ai prêché à 100 églises différentes en France, mais entre certaines 50, peut-être même 100 fois de ces églises. Alors, j'aime beaucoup la francophonie, j'aime beaucoup les anglophones et je suis content d'être là ce matin. Alors, je commence de vous connaître un peu, et c'est bien, parce que quand je suis très nerveux, quand je ne connais pas les gens très bien, je prêche 15, 20 minutes peut-être. Et quand je les connais un peu, je prêche 30 minutes. Mais quand je les connais bien et je les aime beaucoup, je prêche 2 heures. C'est pas vrai. Il y en a quelques-uns qui sont tombés de leur chaise, hein. C'est pas vrai. Je ne sais pas à quelle heure vous finissez normalement, mais je vais essayer de ne pas être trop lent. Et je vous avertis que j'essaie toujours de ne pas être trop lent et je réussis rarement, mais je vais essayer quand même. Philippiens chapitre 3. Et enfin, j'ai dit Lucille 8, mais je vais commencer au verset 7 pour vous embêter un peu. Okay. Philippiens 3 et 7. Mais ces choses qui étaient, c'est Paul qui parle, qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte, et j'aime bien cette phrase, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Je crois que Paul est lutté pour trouver le mot là, l'excellence de la connaissance de Jésus. Vous qui recevez mes tasses de café chaque semaine, il y en a beaucoup qui reçoivent en France aussi. Il y avait une dame âgée et elle m'a écrit et elle a dit quelque chose. Je crois qu'on parlait de la bonté de Dieu. Et elle m'a dit, vous savez, il doit être un autre mot pour ça. C'est-à-dire, il faut inventer un mot parce que les mots que nous avons ne sont pas assez pour décrire la bonté du Seigneur. Et quelque part, je crois que l'excellence, c'est un beau mot, mais ce n'est pas assez de décrire combien il est excellent. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Tout petit mot avant que je commence la prédication. Les tâches de café, le moment tâche de café le samedi matin qui vient, ça sera vraiment un moment. Si vous avez une question, c'est très libre. J'ai un sujet, un thème, je vais commencer avec cela. Le thème sera comment être tueur des géants et puis comment former, et surtout ça, comment former des tueurs des géants et puis suivi par un moment libre, vous pouvez poser des questions, n'importe quelle question, de la Bible, de la vie. Alors, j'ai peur quand je dis ça, je tremble même. Alors, il ne faut pas poser des questions où a Caïn trouvé sa femme. Moi, je n'ai aucune idée. Enfin, j'ai des idées, mais je ne sais pas. Ne me posez pas des questions comme... Mon mari, pourquoi il est tellement têtu? Je ne sais pas. Pourquoi vous vous êtes marié avec lui? Il était têtu comme ça. Mais des questions de la Bible, de la croissance en Christ, du baptême du Saint-Esprit, des dons de l'Esprit, comment faire face à la dépression, comment voir le... j'aimerais bien, si vous aimeriez bien que je réponde à une question, que vous m'écrivez une petite question en anglais ou en français, eh bien, on va essayer de prendre le temps pour le traiter. Bien sûr, on n'aura pas le temps pour tout traiter en profondeur, mais j'aimerais bien répondre là et puis avoir un peu un échange aussi. Parce que je trouve que quand on est vraiment poussé par la caféine, il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent. Hein? Je crois que le café, c'est un don du Seigneur, parce que j'ai dit à quelqu'un en blaguant, je ne suis même pas sûr d'être sauvé avant la première tasse de café, et puis après ça va, je suis vraiment spirituel. Non, ça ce n'est pas vrai, mais quand même. Mais j'aimerais bien avoir un moment d'échange entre nous. La dernière fois qu'on a fait, c'était super. J'aime bien cette église. Vous êtes gentils pour la plupart. Non, 100%, 110%, 110%. Okay. L'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Quand j'étais en fac, j'ai fait la connaissance d'une jeune fille. La jeune fille qui est maintenant ma femme, elle n'était pas étudiante à l'université, mais elle travaillait en ville, elle vivait avec sa sœur, et elle habitait à peu près, je dirais, 3 kilomètres de l'université. Je vivais dans les dortoirs, et je vous dis, pendant tout un semestre, ou peut-être même plus, je fais le trajet, 5 kilomètres, aller-retour, 5 ou 6, chaque soirée presque sans exception, quand il pleuvait, quand il faisait froid, quand j'étais là parce que j'avais fait la connaissance d'une personne et je voulais que cette personne soit ma femme. Un soir, j'étais en train de retourner, marchant sur le trottoir, il faisait nuit, et moi, je marchais pas, je flottais sur le trottoir, parce que je venais de voir ma bien-aimée. Tout d'un coup, j'entends de derrière une maison, et je sais pas vous, mais quand j'entends quelque chose comme ça, j'ai des petites électricités qui courent sur le dos, dans le dos, là, je dis, oula! Et je me suis tourné, et il y avait un berger allemand qui est venu de derrière la maison. Il avait 4 mètres. Il avait des crocs comme un dinosaure. Et il courait tout droit vers moi. Et oh là, j'avais peur. Alors, que faire? Est-ce qu'il faut courir? Alors, je savais assez. Si tu cours, tu es mordu. Parce qu'il t'a si tu cours. Alors, une fois, j'avais vu dans un film de Tarzan qui était contre un lion. Et il s'est mis là, et il avait un petit couteau, quelque chose comme ça. Et le lion est venu, et Tarzan, il a dit, « Ungawa !» Et puis, il a vaincu le lion. Alors, je n'ai pas dit « Ungawa », mais je me suis mis là, et j'avais quelque chose dans la main, et j'ai dit, « Allez-vous-en !» Et tout d'un coup, le chien, il s'est arrêté, et gentiment, il s'en est allé. Et moi, j'ai presque eu une crise cardiaque. Oh là! Alors, est-ce que ça m'a empêché d'aller chez Félix la soirée suivante? Pas du tout. Ni la soirée. Non. C'est elle qui me mord maintenant. Elle n'est pas. J'espère qu'elle n'écoute pas. Mais elle vous salue bien. Elle vous salue bien. Mais vous savez, quand j'ai fait connaissance de cette fille, je me dis, c'est là la fille que je veux qu'elle soit ma femme. Et j'ai fait des efforts. J'ai fait des sacrifices, je ne veux pas dire que j'avais des notations très très hautes dans mes classes ce semestre-là, mais j'ai eu la fille. Et ça, c'est l'essentiel. Et depuis, Je l'ai connu un peu à cette époque, même au mariage. On croit qu'on connaît cette personne. Mais est-ce combien de vous, les maris, vous pouvez dire, je croyais connaître ma femme quand nous nous sommes mariés, mais maintenant, oh là là, je la connais beaucoup mieux. Laisse-moi voir la main. Hein? Oh, vous êtes des lâches. Hein? Mais c'est vrai. Je me souviens, ma femme... Bon, Félix, quand on sortait ensemble, après quelques mois, elle m'a dit, mais David, qu'est-ce qu'il faut pour que vous vous fâchiez? Je ne t'ai jamais vu fâcher. Ça fait plus de 50 ans, elle ne dit plus ça, parce qu'elle a trouvé le truc. Vous savez qu'au début, quand on ne se connaît pas, on se cache un peu. Mais puis, au fur et à mesure qu'on est ensemble, on commence de connaître les uns les autres. Si un couple n'avance jamais au-delà de ces premières journées, de ce niveau-là de connaissance entre eux, le mariage sera probablement un échec. Il faut grandir. Je me souviens de ma grand-mère un jour. Grand-mère et grand-père étaient là et grand-mère dit, ah, tu sais, David, quand ma papy et moi, quand nous nous sommes mariés, c'était bien, on se connaît, on s'aimait bien. Mais maintenant, après 50 ans, c'est beaucoup mieux. Elle a dit, on se connaît tellement bien. Bon, moi, je connais, je sais même ce qu'il pense. Et papy, il dit, non, tu ne sais pas ce que je pense. Et elle a dit, si, je sais ce que tu penses. Mais c'est vrai, quand on vit ensemble, quand on fait face à la vie ensemble, quand on a des expériences ensemble, quand on marche ensemble, on croit, on grandit dans la connaissance l'un de l'autre. Alors, la question que je vous pose, c'est celle-ci. Est-ce que vous avez grandi dans votre connaissance du Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'il y a des chrétiens qui sont nés de nouveau depuis 20 ans. Mais spirituellement, ils sont toujours un enfant. Et il y en a d'autres qui sont chrétiens depuis pas trop longtemps. Mais quand même, ils ont grandi. Pourquoi et comment? Mes amis, Dieu veut que vous le connaissions. Parce que lui, il vous connaît à fond. Mais il veut que nous le connaissions. Et je vous dis que c'est une chose merveilleuse de connaître le Seigneur. L'apôtre Paul, il a dit, j'ai tout donné. J'avais tout. J'ai renoncé à tout cela. Parce que lui, c'était un jeune homme qui est très, très, très intelligent. Évidemment, sa famille avait de l'argent parce qu'il était de Tarse. Mais il a fait des études supérieures à Jérusalem auprès de Gamaliel, qui était un des grands enseignants juifs de temps. Alors, Paul, il avait une formation, une éducation, probablement une famille assez influente. Et lui, c'était un jeune homme qui allait quelque part parce que s'il voulait parler avec le souverain sacrificateur, qui était enfin le chef du peuple juif sous les Romains, il pouvait le faire, il avait une libre entrée, presque. Alors, c'est un jeune homme qui, déjà, si vous avez vu son chameau à l'époque, c'était un BMW chameau. Et il avait déjà repéré une Mercedes pour un peu plus tard parce qu'il montait en grade. Il allait être quelqu'un dans sa religion. Mais un jour, il a fait connaissance d'une personne. Ce Dieu d'Israël croyait qu'il le connaissait. Mais quand il s'est révélé en Jésus-Christ sur ce chemin vers le demain ce jour-là, Paul est tombé par terre. Et il y avait quelque chose de tellement excellent qui est arrivé dans la vie de Paul. Qu'il a renoncé tout cela. Il a dit, je croyais que c'était quelque chose de bien. C'était mon but, c'était ce que je voulais. Mais quand j'ai rencontré Jésus-Christ, mon Seigneur, alléluia, tout a changé. Il n'y a rien comme lui. Il n'y a personne comme lui. Amen. Et Paul a dit, oui, ça c'était bien, mais il a dit maintenant, à côté de Jésus, c'est comme de la boue. Il y a des versions qui disent, c'est comme des ordures, des balayeurs. Je considère, j'ai tout perdu ça, Parce que les gens qui... De la religion qu'il avait, parce que Paul avait une religion. Mais les gens qui n'avaient qu'une religion, ils ne voulaient plus de lui. Mais Paul, il a dit, ça va, parce que de connaître Jésus. Est-ce que vous vous souvenez de ces jours-là, quand vous avez rencontré Jésus pour la première fois? Oh là, j'aime bien. Évidemment, il y avait un réveil ici au Canada, dans la francophonie, vers 1980, c'est quelque chose comme ça. Parce que combien d'entre vous, vous êtes venus au Seigneur entre 95 et 4, attends, oui, mais à peu près 80, là, soit, oui, autour de 4, oh là là, regarde, oh, Seigneur, fais-le encore. Seigneur, fais-le encore. Parce que le besoin, c'est encore plus grand aujourd'hui qu'en 1980. Amen. Et les personnes qui sont venues avec l'Évangile, qui connaissaient Jésus, qui étaient tellement pleins de cette connaissance de Jésus pour communiquer cette connaissance à vous. Vous avez besoin de communiquer cette même connaissance aux autres. Je me souviens de quand j'ai commencé dans le ministère aux États-Unis et il y avait un jeune homme dans l'église qui s'est converti, Jerry. Et Jerry, quand il est venu au Seigneur, ce n'était pas à moitié. Il est venu de tout son cœur. Il avait un cœur tellement tendre vis-à-vis le Seigneur. Et un jour, on était à l'église et on devait faire quelque chose, mais c'était annulé. Alors, nous étions en train de tuer le temps et on regardait dans les chants, les recueils de chants. Et je suis, ma grand-mère m'a emmené à l'église depuis 3 ans. Alors, je connaissais tous les vieux chants, tout ça. Alors, Jerry regardait dans le livre et il trouvait un chant qui s'appelait « Friendship with Jesus », l'amitié de Jésus. Et il m'a dit, David, comment ça va? Bon, on ne chantait pas souvent ce chant, mais les chants, les paroles étaient tellement, tellement belles. Et je commençais à dire, c'est l'amitié de Jésus, quelle communion divine. Oh, quelle communion précieuse. Jésus, c'est un ami de moi. Mais le chant, c'est beau et les paroles sont belles. Et Jerry, je regarde comme ça, et tout d'un coup, j'étais surpris de voir, c'était moi qui chantais, mais j'étais surpris de voir, Jerry avait les larmes aux yeux. Et je me dis, je ne chante pas si mal que ça, j'espère. Non. Mais ce n'était pas ça, c'était des paroles, l'amitié de Jésus, cette relation, parce que c'était tout nouveau. Connaître Jésus. Comment? Par la religion? Non. Il y a toutes sortes de religions. Mais mes amis, comprenez bien ce que je veux dire. Mais ce n'est pas la religion qui vous sauve. Ce n'est pas l'Église, l'Assemblée de Pentecôte de Canada qui vous sauve. Ce n'est pas les baptistes, ce n'est pas les protestants officiels, ce n'est pas les catholiques, ce n'est pas la religion qui vous sauve. Tout ça peut être bien, je ne suis pas du tout contre. Je fais partie d'une église, vous aussi. Mais mes amis, ce qui change, c'est cette connaissance de Jésus. C'est une relation, c'est une chose de personnel avec le Seigneur. Et ça vient par la foi. Oui, on fait les choses extérieures. Oui, on se fait baptiser de l'eau pour montrer à tout le monde qu'on est sauvé et pour donner témoignage. Mais ça commence d'abord dans le cœur et dans l'esprit. Jésus nous a sauvés. Jésus m'a sauvé. Je me souviens, je suis venu quand j'étais petite et j'avais une expérience avec le Seigneur. Mais durant mon adolescence, j'étais en haut, en bas, en haut, en bas. Pourquoi? Parce que j'avais le sentiment que je devais être parfait. Et si j'avais même une mauvaise pensée, j'avais perdu mon salut. Je ne sais pas si ça existe au Canada, mais aux États-Unis, il y avait des églises, tout était péché. Tout. Il y avait des péchés de la Bible et il y a des péchés que les pasteurs ont inventés. parce qu'il n'avait pas assez de péché. Oh là là, je crois qu'il voulait toujours avoir une réponse à l'appel. Et là, tchoum. Et j'étais assez sérieux. J'essayais de marcher comme il fallait. Mais, et l'autre chose, si vous êtes né de nouveau, vous allez le ressentir. Et je suis pour. Et normalement, tu le ressens. Et des fois, je ne le ressens pas. Ma femme, des fois, elle veut m'imposer les mains pour prier pour moi. Et des fois, elle veut m'imposer les mains pour m'étrangler. Tu sais pas pourquoi. Est-ce qu'elle a perdu son salut? Non, j'ai presque perdu ma vie. Mais je ne la blâme pas. Je suis toujours en train de la taquiner. Et je dis, si je le dis, elle va me frapper. Est-ce que ça vaut le coup? Si, ça vaut le coup. Hein? Toujours. J'aime bien l'embêter. Oui. Mais mes sentiments sont en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. En... Et ce n'est pas ça comme... c'est pas ça la foi. Je croyais que la foi était une émotion, un sentiment. Non, non, la foi, c'est l'action ou la conviction au centre de moi qui détermine comment je marche. Parce que des fois, j'ai peur comme tout, mais je le fais quand même parce que j'ai la confiance que Jésus m'a dit de le faire. Si j'attendais des sentiments, normalement, je resterais dans mon coin et je ne ferais rien de tout. Mais pas la foi, pas la foi. Et Paul a dit, je suis venu à Dieu, pas ma religion. J'étais un des chefs de ma religion. Je faisais toutes les règles là, toutes les rites, tout ce qu'il fallait. J'étais d'une bonne famille, j'étais ceci, j'étais cela. Mais tout ça comptait rien. Ce qui comptait, c'est le jour où je suis venu et j'ai rencontré Jésus-Christ. Et au lieu de dépendre de moi-même, j'ai commencé de mettre ma foi en Jésus et ce qu'il a fait à la quoi le calvaire à ma place. Il est mort pour mes péchés. Il est ressuscité le troisième jour. Il est monté à la droite du jour. Il vit éternellement. Et tout le monde qui vient au Père par Jésus et demande le pardon et le salut, il est sauvé. C'est ça, connaître Dieu. C'est ça, la foi. Mais vous pouvez grandir dans cette foi. Parce que quand j'avais 18 ans, enfin, je me souviens, j'étais dans ce fameux dortoir à l'université. J'avais trouvé des amis chrétiens. Et on est en train de prier dans une chambre. Et là, je m'étais assis sur le lit de quelqu'un. Et je me suis dit dans mon cœur, Seigneur, j'ai entendu que ce n'est pas par mes sentiments que je suis sauvé. Pas par mes émotions, mes sentiments. C'est par la foi en Jésus. Et je dis, dès ce moment, je ne vais pas faire confiance à mes sentiments, mais je fais confiance, Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as pardonné, je suis à toi. Et depuis ce moment, mes amis, je garde cette conviction. Parce que ça, c'est la fondation. Vous pouvez bâtir là-dessus quand vous savez, quand vous avez pris la décision. Oui, Jésus m'a sauvé. Et si je tombe, qu'est-ce que je fais? Je demande pardon. Je me relève et je continue. Et si je tombe encore, je demande pardon. Combien de fois Dieu vous pardonnera, David? Quand je lui demande, sérieusement, il me pardonne. Et plus tard, je suis délivré de là où je suis tombé. Mais il ne faut pas arrêter, il faut faire la confiance en Jésus. Mais quand on connaît le Seigneur, il faut grandir. Dieu a de bonnes choses pour vous. Oh là, il y a 4 personnes qui le croient. J'ai dit, Dieu a de bonnes choses pour vous. Amen. Ça m'a fait du bien. Vous pouvez grandir, lui. Quand j'avais 6 mois, vous pouvez mettre une sucette dans ma bouche. Et j'étais content. Mais maintenant, il me faut un hamburger que je sois content. Les hamburgers sont beaucoup mieux que les sucettes, n'est-ce pas? Pas pour la ligne, mais quand même. Moïse, il est là. Ils sont même, avant de vraiment connaître Dieu, un appel pour libérer le peuple d'Israël d'Égypte. Et il a essayé de ses propres forces et c'était une catastrophe. Il a dû s'enfuir. Il était là dans le désert en train de surveiller des moutons pleins de poussière et de puces. Et là, je ne sais pas, il ne voulait plus. Et tout d'un coup, il voit la buisson ardente. Ça brûlait et ça ne se consommait pas. Et Dieu s'est révélé à Moïse. Il tremblait, il cachait le visage. Mais Dieu a dit, fais ceci. Il avait peur, mais il l'a fait. Il était allé en Égypte. Et puis, oh là là, il voyait un peu la gloire de Dieu là. En Égypte, il a vu des plaies qui tombaient sur les ennemis de Dieu. Il a vu la mer rouge qui s'ouvrait. Il a vu la provision dans le désert de la manne et aussi de la nuage qui les dirigeait, de toute cette manifestation de Dieu. Et ça a augmenté sa connaissance de Dieu parce que Dieu s'est manifesté de plus en plus. Et puis le jour où Dieu appelle Moïse sur le sommet de la montagne. Et là, il était 40 jours avec Dieu. Il descend et vous connaissez toute l'histoire là. Mais puis, il vient un moment où Moïse doit remonter. Et il dit, Dieu, fais-moi voir ta gloire. On a chanté ce matin. Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et il dit, attends. Moïse, tu es gourmand de quoi? Parce que là, tu as vu plus que n'importe quel homme depuis Adam de Dieu. Et tu veux plus? Tu as vu le buisson ardent qui ne se consommait pas? Tu as vu toute la manifestation de la puissance, de la gloire de Dieu en Égypte? Tu as vu la provision dans le désert? Tu as vu la gloire de Dieu qui se manifeste sur la montagne? Et tu voulais encore voir plus? Oui. Oui, mes amis, il remplit l'univers, notre Dieu. Et il y a toujours toute une éternité pour voir Dieu. Alors, Dieu a dit, écoute Moïse, parce que c'était pas encore la croix n'était pas encore venue. Il a dit, je vais passer devant toi. Tu peux pas voir mon visage parce que ça te tuera, mais tu peux me voir pas derrière. Tu verras ma gloire de ce côté-là. Et Moïse l'a vu comme ça. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il ne faut pas dire aux autres, c'est un secret entre nous, ok? Moïse, il pouvait voir Dieu seulement pas derrière. Mais Paul dit en 2 Corinthiens 4, et je ne sais pas quel verset, mais il dit, nous voyons la gloire de Dieu révélée sur le visage de Dieu. Vous voyez? Moïse ne pouvait pas voir ça, parce que ça l'aurait tué. Il n'était pas encore prêt, il n'avait pas encore la révélation, la connaissance de Dieu. Mais toi et moi, et qui sommes-nous? Nous ne sommes pas Moïse, nous ne sommes pas des grands, nous sommes des petites. Et chacun de nous, nous pouvons montrer par le sang de Jésus, dans la présence de Dieu le Père, pardonner, laver, purifier, justifier. Et nous pouvons voir dans le visage de Jésus la gloire de Dieu. Et souvent ici, quand nous sommes dans la réunion en train de louer le Seigneur, c'est comme si nous voyons la gloire de Dieu quand nous louons le Seigneur Jésus-Christ. Quelle joie! Quelle joie! Mes amis, pour les baigner, je vous conseille de ne pas être trop gourmand. Je suis le témoin vivant. Pour la présence de Dieu, soyez aussi gourmand que vous voulez, parce que ça ne fait pas la graisse spirituelle, ça fait des muscles spirituels, ça fait la puissance spirituelle. Quand vous voyez la gloire de Dieu, connaître Jésus, et Paul a dit, Dieu le connaît dans la puissance de la résurrection, pas dans la puissance de la religion. Paul a dit, même à l'époque là, si vous lisez un peu plus tard, il y avait des gens, il a dit, prenez pas l'exemple. Le Dieu, c'est le ventre, c'est-à-dire il vit pour ici-bas. Le pensée n'est pas sur les choses célestes, mais terrestres. Il a dit que là, et enfin, ce sont des gens, des leaders qui visent votre porte-monnaie. Hein? Et moi, je crois qu'un chrétien, moi, je donne la dîme, je donne les offrandes, j'essaie d'être généreux. Je ne parle pas de ça, mais je parle, il y a des gens qui parlent de combien de gros avions ils ont et tout. Et puis, il y en a qui aiment bien être un peu gonflés par notre louange. Gloire à Dieu! Et un peu, frère, sœur, non, vaut pas la gloire de Dieu. Vaut pas sa gloire. La gloire appartient à un seul. Et ça, c'est le Seigneur Jésus. Et Paul a dit, cela, c'est la religion. Cela, c'est d'ici-bas, c'est terrestre. Mais il a dit, nos yeux sont fixés ailleurs. Et toi et moi, nous vivons ici et aussi en Éphésiens. Il parle, il a dit, que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre la mort est en train d'agir envers toi et envers moi. Ouh là là, je crois que si vraiment nous réalisions cela, peut-être nous, poum, chacun dans notre siège là, la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en train d'agir en nous. C'est-à-dire, nous pouvons vaincre ce péché. Amen. Est-ce que ce sera facile? Non. Est-ce que ce sera, peut-être on ne tombera jamais? Non. Mais on continue de combattre parce qu'on a l'épée du Seigneur, on a la puissance du Seigneur et la puissance qui agit envers le Seigneur. Agit envers nous. Alors, combattre cette chose qui ne plaît pas au Seigneur, cette attitude. Une personne m'a dit dernièrement, vous savez, j'ai un problème, c'est que ma fille adolescente, ah là là, des fois je m'emporte avec elle, je sais que c'est pas bien. Et, bon, les ados, normalement le saint, il va s'emporter avec les ados de temps en temps, n'est-ce pas? Il faut pas dire tout, parce que moi j'en étais un. Mais mes amis, Dieu vous aidera. C'est la sanctification. Sa connaissance nous sauve, mais sa connaissance nous fait plus comme Jésus chaque jour. Et puis, il a dit, il connaît aussi la souffrance du Seigneur. Moi, j'aime bien la résurrection du Seigneur. Je n'aime pas la souffrance. Là, je suis le schtroumpf grognon quand ça s'agit de la souffrance. Il y a des gens qui disent, oh, il faut souffrir pour que vous grandissez. C'est peut-être vrai. Mais si vous voulez souffrir, je vous donne mes souffrances avec joie. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Ça vient. Et il y a quelque chose dans la souffrance qui nous rapproche du Seigneur. Cherche pas d'être... Écoute, moi... Ce n'est pas nécessaire que je cherche des souffrances. Les souffrances me cherchent moi. Je suis en train de me cacher. Ils me trouvent quand même. Je plaisante, ok? Mais c'est vrai. Quand on est dans la souffrance, parce que ça nous arrive à tout le monde. Vous m'avez entendu? Vous pouvez confesser toute la journée, mais on a dans cette vie ces moments de souffrance. Mais c'est souvent ces moments-là où nous sommes plus proches du Seigneur. Quand nous étions au Luxembourg, on avait un café-bar chrétien. On sortait dans la rue pour parler avec les gens, pour les inviter pour un café. Et il y avait un jeune homme qui est venu, il s'appelait Gilbert. Gilbert, la première fois qu'il est venu, il était ivre comme tout. La deuxième fois qu'il est venu, il était ivre comme tout. Et puis, au fur et à mesure qu'il vient, le Seigneur fait une différence en lui. Il n'était plus ivre comme ça. Il était vraiment, vraiment changé. Mais Gilbert, il voulait deux choses dans la vie. Il voulait un autre travail et il voulait une femme. Alors, bon, Vous savez, il y a des gens qui disent, oh, si j'avais seulement une femme, je serais content. Si j'avais seulement un mari, je serais content. Il y a des milliers de femmes au Canada qui vous donneront le mari avec joie. Si ça, c'est la seule chose qui vous empêche d'être dans la joie. Mais Gilbert, un soir, il était découragé comme tout. Il vient à une réunion, il dit, David, il a dit, si le Seigneur ne me donne pas un autre travail et une femme avant le vendredi, tiens, c'est fini avec ça, il a indiqué l'église. Et je dis, Gilbert, c'est pas comme ça que ça marche. Le Seigneur n'est pas une boîte à Coca-Cola que tu mets ton dollar et tu pousses le bouton et ça marche pas comme ça. Mais il a dit, quand même. Et vous savez, il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Un peu après, j'ai entendu qu'il avait un autre boulot, meilleur qu'avant. Il avait une femme, et je crois qu'ils n'avaient pas longtemps après cela, un enfant. Et je me dis, Seigneur, mais comment ? Là, il s'est écarté de toi et il a eu ce qu'il voulait. Oui, c'est vrai. Mais puis ça commençait de diminuer. Il rebuvait. Sa vie allait de mal en pire. Sa femme est allée dans un foyer avec l'enfant. Je crois qu'il a perdu son travail parce que vous ne pouvez pas être chauffeur de camion et boire. Et sa vie, c'était catastrophique parce qu'il ne savait pas comment se porter les épreuves et les difficultés. Et mes amis, c'est là que vous devez devenir fort. Si vous faites des sports, ce n'est pas en faisant des petites parties de pique-nique de dimanche après-midi que vous devenez un fort joueur. C'est dans des entraînements forts où votre entraîneur, vous croyez qu'il va vous tuer, que là, vous devenez fort. Et c'est là, dans les souffrances, que le Seigneur nous aide, que de grandir en lui. L'intimité du Seigneur. Je termine avec ce dernier point. Pour moi, la meilleure chose de la vie chrétienne, c'est le Christ. C'est connaître le Seigneur Jésus-Christ. D'avoir une relation personnelle avec lui. Il a dit, le psaume chapitre 25, verset 14, il a dit, « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne l'instruction. » Instruction. Il y a une version qui s'appelle Darby, qui l'a traduit comme ça. J'aime beaucoup. Il a dit, « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, pour leur faire connaître son alliance. » Vous savez, quand vous achetez une nouvelle voiture, souvent, vous ne savez pas comment même ouvrir le truc pour mettre de l'essence. Il faut le petit guide, là, le petit livre. Il faut savoir pour cela. Et là, quand vous connaissez le Seigneur, il vous montre les mystères du Christ, les mystères de la vie de Jésus. Comment faire face à la vie pour cette relation, pour cette intimité. Il vous donne, il vous murmure des secrets. Et vous murmurez des secrets. Vous êtes prêt au Seigneur, tout prêt. Quand j'étais enfant, quand j'étais tout jeune, mon papa, il aimait bien faire la chasse. C'était pas le chasse aux chevreuils ni aux mousses. On n'avait pas des mousses, comme on dit des mousses. Et ça, on n'avait pas ça. On avait plus des écureuils. On n'est pas très dur, nous. Les Canadiens, ils tuent des mousses. Et nous tuons des écureuils. Mais papa, il aimait beaucoup la chasse, être dans la forêt. Et quand j'étais jeune, quoi, 6, 7 ans, je suppose, je commençais d'aller avec papa. Très tôt le matin, il me levait. Il m'a fait lever. Et dans la forêt, on s'est promené. Papa, il faut le connaître. Je ne sais pas si papa m'a jamais dit de toute sa vie, je t'aime. OK? Et après, bon, quand on est enfant ou un petit, oui. Mais après, je ne sais pas s'il m'a jamais serré dans ses mains. Pas des bisous, pas des câlins. Mais mon papa m'aimait. Et je savais bien Il n'a pas dû le dire toutes les cinq secondes. Je savais que papa m'aimait. Et dans ces moments où je marchais derrière lui dans la forêt, on ne parlait pas beaucoup parce que c'est un adulte et un enfant. Mais même maintenant, je me dis, mais pourquoi il voulait que je sois là? Bon, j'étais son fils aîné, mais pourquoi? Parce que là, on habitait deux mondes différents. Mais parce que papa voulait passer du temps avec moi. Et je me souviens un peu plus tard, un matin, je n'avais pas l'envie de me lever. Je devais être adolescent, je ne sais pas. Et je dis, oh, papa, je n'y vais pas ce matin. Et un peu après, maman est venue et elle a dit, David, lève-toi, papa, va avec papa, va avec papa. Moi, je ne savais pas. Mais elle savait combien était important pour papa de passer du temps avec moi. Et ça me touche même après toutes ces années que papa voulait passer du temps avec moi. Toi, papa veut passer du temps avec vous. Le Père, Dieu le Père, Jésus le Fils. Il voulait que tu sois dans sa présence. Il veut te baptiser du Saint-Esprit. Il veut te montrer des choses de sa parole. Papa veut passer du temps avec toi. Laisse-moi vous poser une question. Vous avez couru à droite et à gauche. Vous avez tant de choses à faire. Mais dans la journée, chaque jour, est-ce que vous avez le temps pour passer du temps avec papa? Si vous passez du temps avec papa dans la prière, et je peux en parler beaucoup, comment fructifier votre moment avec Dieu chaque jour. Peut-être on parlera le samedi si quelqu'un s'intéresse. Mais c'est tellement important de chaque jour vous mettre à côté pour être avec Dieu. Pour être avec le Seigneur Jésus-Christ, pour voir la gloire de Dieu dans la face de Dieu, de Jésus. Moïse, quand il est descendu de la montagne, il brillait, il rayonnait la gloire de Dieu. Il ne savait même pas, mais la présence de Dieu l'avait changé. Et la présence de Dieu vous changera, me changera. Ce matin, j'aimerais bien, en terminant, que chacun de nous, que nous disons, Seigneur, parce que certains d'entre vous, vous passez du temps avec le Seigneur. Peut-être comme moi, il n'y a pas longtemps de cela. Dis, Seigneur, aide-moi, parce que ça devient monotone, ça devient le train-train, ça devient plus le devoir que la relation. Aide-moi vraiment pour faire vivre ce moment avec toi. Priez. Dis, Seigneur, montre-moi comment grandir dans ta connaissance. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Ah, merci pour ta présence. Merci que nous, petits êtres humains, que vous avez permis que nous pouvons te connaître. Que par toi, Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons entrer dans la présence de ton Père et nous pouvons lui dire, Papa, je t'aime. Oh Seigneur,